Encore bonjour et bienvenue à chacun. Ça fait du bien de se retrouver pour louer Dieu ensemble. Sans nous être concertés, on est sur une matinée psaume. C'est très bien. Je voudrais moi aussi continuer avec un psaume qui m'a interpellé encore. Je crois que c'est un des psaumes qui est... Enfin, c'est difficile de dire ça parce que tous les psaumes sont intéressants et tous sont pertinents. Mais celui-ci, je trouve, est vraiment pertinent pour nous. Au regard du monde qui nous entoure, de l'actualité qu'on vit, des réflexions qu'on peut avoir quand on voit et qu'on entend tout ce qui se passe autour de nous. Si on devait demander quel est l'élément qui définit le fait que, quand on parle de quelqu'un, est-ce qu'il a réussi sa vie ou non, est-ce que c'est quelqu'un de bien ou non, hein, justement, c'est bien souvent chez nous le succès, hein, arriver quelque part en haut. Et j'aimerais qu'on lise ensemble le psaume 73, le psaume d'Asaph. Et je vais le lire en entier, il est un peu long, mais juste après on va le reprendre, avancer dedans. 73. Oui, pardon. J'ai passé 3 semaines en France, j'ai perdu mes réflexes. J'étais pas branché sur le bon... Hein? Ben, voilà. Est-ce que je pourrais avoir un traducteur ce matin? Alors, psaume 73, merci Jean-Jacques de corriger, parce qu'il est bilingue, ça se voit pas comme ça, mais... Il parle le français et le suisse romain. Alors, verset 1. « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, il s'en est fallu de peu que mes pieds ne trébuchent. Un rien de plus, et je tombais. » Je vous le lis dans la version du semeur, hein, au cas où. « J'étais jaloux des arrogants en voyant la prospérité des gens méchants. » Car ils sont exempts de souffrance. Jusqu'à leur mort, ils ont santé et embonpoint. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Aussi, s'ornent-ils d'arrogance comme on porte un collier, et la violence est leur parure. Leurs yeux sont pétillants dans leur visage plein de graisse. Les mauvais désirs de leur cœur débordent sans mesure. Ils sont moqueurs, ils parlent méchamment, et sur un ton hautain menacent d'opprimer. Leur bouche s'en prend au ciel même, leur langue sévit sur la terre. Aussi le peuple les suit-il, buvant à longs traits leurs paroles, tout en disant, « Dieu, que sait-il celui qui est là-haut? Comment connaîtrait-il ? » Voilà comment les méchants, toujours tranquilles, ils accumulent les richesses. Alors c'est donc en vain que je suis resté pur, que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Tous les jours je subis des coups, je suis châtillé chaque matin. Et pourtant si je disais parlons comme eux, alors je trahirais tes fils. Je me suis mis à réfléchir, j'ai cherché à comprendre. Je trouvais tout cela bien injuste, jusqu'au jour où je suis entré dans la maison de Dieu. Où j'ai réfléchi au sort qui les attend. Car en fait, tu les mets sur un terrain glissant, tu les entraînes vers la ruine, et soudain, c'est la catastrophe. En un instant, ils sont perdus. Ils sont détruits, et l'épouvante les saisit, comme les images du rêve s'évanouissent après le réveil. Ô Éternel, quand tu interviendras, tu les feras tous disparaître. Oui, quand j'avais le cœur amer, et tant que je me tourmentais, j'étais un sot, un ignorant. Je me comportais avec toi comme une bête sans raison. Mais je suis toujours avec toi, et tu m'as saisi la main droite. Selon ton plan, tu me conduis, puis tu me prendras dans la gloire. Qui ai-je au ciel, si ce n'est toi? Et ici-bas, que désirer, car je suis avec toi? Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Qui t'abandonne se perdra, et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles, tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de toi. Oui, j'ai placé dans le Seigneur Dieu l'Éternel mon sur-refuge, et je raconterai ses œuvres. Je trouve ce psaume intéressant parce que si vous êtes comme moi, je suis souvent révolté quand Ouais, juste, j'ouvre un journal, j'écoute les informations à la télé, j'entends parler autour. On est pourtant dans des endroits très favorisés, hein, mais quand on voit ce qui passe pour la majorité des gens sur la Terre, et puis même parmi nous aussi, c'est révoltant. Hein. On avait une réunion avec Croissance Afrique cette semaine, on parlait du niveau de vie des gens au Togo, juste parce que des gens décident qu'ils vont garder leur blé ou leur riz un mois de plus dans un grenier parce qu'ils pourront gagner quelques milliards de plus, tout d'un coup ça fait que quelques millions de personnes meurent de faim, comme ça. Juste parce que des gens quelque part ont décidé, tiens, on pourrait gagner un peu plus en le vendant dans un mois au lieu de le vendre maintenant. Ces gens-là s'amusent, jouent comme au Monopoly. Et puis c'est des milliers de personnes qui meurent. Là on parle pas juste d'injustice, hein. On m'a volé mon troisième 4x4, non, qui meurent de faim, juste parce que ces gens-là s'amusent comme ça. Hein. Et puis, ce que je trouvais intéressant, et avant qu'on prenne un petit peu, presque, pas verset par verset, mais qu'on progresse dans ce psaume, c'est de me dire, mais pourtant, quand je regarde ma vie, et puis la vie des croyants autour de moi dans nos pays, il me semble que, bien que nous soyons chrétiens, alors on vient au culte le dimanche, on lit nos bibles le matin, etc., mais qu'est-ce qui dirige nos vies? Comment on éduque nos enfants? Comment on met nos priorités? En réalité, cette injustice, elle nous gêne pas vraiment. La seule chose qui nous gêne, c'est que c'est pas nous qui sommes en haut. Et en tout cas, si on n'est pas trop en bas, c'est qu'on voudrait rester assez haut dans cette chaîne-là. C'est la seule chose qui nous gêne vraiment. Après, on peut faire un peu d'aumône. Hein, si nous, on est bien lotis, de temps en temps, de notre superflu, généreusement, on va sortir un joli billet, le donner. Mais l'injustice, c'est que c'est pas moi qui suis en haut. C'est comme ça souvent qu'on est. Et on voit que dans ce psaume-là, apparemment, cette situation n'est pas nouvelle. Puis on le sait si on étudie l'histoire ancienne, très ancienne et même antique. L'injustice a toujours été là. Et c'est toujours le même processus qui se répète, et même lorsqu'il y a eu des chamboulements dans l'histoire, et que tout d'un coup, on peut dire, les plus faibles arrivent au pouvoir, il faut pas une génération pour que ce soit la même chose. Ils sont souvent même pires que les autres. Donc, c'est une situation qui semble être liée à l'être humain, de par son égoïsme, sa méchanceté, de par le péché qui est dans le monde. Mais la réflexion de cet homme, Asaph, est vraiment intéressante. Parce que bon, hein, il commence l'introduction, verset 1, Dieu est bon, bon, ça je dirais, c'est la généralité, comme nous tous, hein, si on me demandait, vous êtes croyant? Mais bien sûr, hein, je vais à l'église, j'ai ma Bible. Pourtant, verset 2, il s'en est fallu de peu que mes pieds ne trébuchent. Hein, rien de plus et je tombais. Hein. Il y a ce pourtant, et je crois que si on est honnête dans nos vies, il y a souvent ce pourtant. Parce que oui, je crois en Dieu, oui, Dieu est bon, Dieu est juste, etc. Mais pourtant, la vie qu'on vit, le monde dans lequel on vit, ça va pas. Hein. Et il s'en est fallu de peu que mes pieds ne trébuchent. J'étais jaloux des arrogants en voyant la prospérité des gens méchants. J'étais jaloux. Hein. Il dit pas, j'étais révolté par autant d'injustices. Simplement, j'étais jaloux. Ce qui me gêne, c'est que c'est pas moi qui suis là-haut. Hein. Et quand je regardais dans mon cœur, je retrouvais la même chose. Hein. En fait, qu'est-ce que j'aimerais? Ben, être à l'abri du besoin, être à l'abri des difficultés, être. Hein. Et puis après, j'ai l'impression, et c'est là où on l'habille d'un peu de morale chrétienne, parce que si j'étais dans cette position-là, moi, je ferais le bien. Mais bien sûr, ils ont tous dit ça avant d'y être. Hein. Et je serais pas meilleur. De la même façon que quand on lit la Genèse, on se dit, moi, à la place d'Adam et Ève, hein, j'aurais pas fait. Mais bien sûr qu'on aurait fait pareil. Et cet homme-là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est honnête. Et je crois que c'est une chose qu'on a à apprendre de ce psaume. Tant qu'on cachera nos intentions réelles mauvaises, sous une bonne couche de religiosité et de bonne morale, en se lavant la conscience avec quelques bonnes œuvres, on ne pourra pas faire face à la réalité. Et cet homme-là, il est honnête. Hein. Et puis, le Saint-Esprit a voulu que ce psaume nous arrive. J'étais jaloux des arrogants en voyant la prospérité des gens méchants. Hein. Quand, encore une fois, on est dans un pays privilégié, et puis on a des choses qui sont... Mais quand on voit des gens qui passent leur vie à travailler 8 heures par jour, presque toute l'année... Et puis, qui arriveront pas à gagner ce que un de leurs dirigeants gagne en une semaine, comme ça, juste parce que, avant de couler l'usine, il est parti, on lui a donné ce que cet ouvrier gagnera pas dans 10 vies. Hein, on est jaloux, mais c'est humain, c'est normal. Et donc là, il le reconnaît. Et puis, ils sont exempts de souffrance. Alors, bien sûr, on sait que les gens qui sont au pouvoir, qui sont riches, ils ont aussi des souffrances, mais ils ont quand même les moyens d'éviter la plupart de ceux qui, nous compliquent la vie. Hein. D'ailleurs, c'est toujours intéressant, je sais pas, en Suisse, mais je vois en France, il y avait des journalistes qui avaient fait une enquête et qui interrogeaient les hommes politiques qui dirigent notre pays. Il n'y en a pas un qui savait le prix du pain, qui savait le prix d'un timbre, qui savait combien coûtait... Ils savent pas ces choses-là. Ils savent pas. C'est pas eux qui cuisinent, c'est pas eux qui remplissent leurs voitures, c'est même pas eux qui les conduisent. Hein. Et puis ces gens-là nous dirigent, mais... Ils sont au-dessus de ces choses-là. S'ils ont la moindre petite douleur quelque part, ils sont dans les meilleurs hôpitaux, ils n'ont pas à calculer si, où en est ma franchise, je peux pas cette année, il faut attendre l'an prochain, tant pis si j'ai mal, je peux pas me pièce. Non. Tout le monde est là. Ils sont au-dessus de ça. Et c'est ce que le psalmiste constate. Il passe à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Aussi sornent-ils d'arrogance comme on porte un collier, et la violence est leur parure. Et je trouve que ces deux mots caractérisent quand même vraiment bien la société dans laquelle on vit. Hein. Arrogance et violence. C'est que non seulement les gens qui sont en haut, qui sont riches, qui sont au pouvoir, qui manipulent ces choses-là, sont dans cette position, mais en plus, ils sont arrogants. C'est normal, hein. Ils n'ont pas à respecter les limitations de vitesse, ils n'ont pas à s'arrêter au feu rouge, ils n'ont pas à faire la queue pour aller chercher un formulaire, mais on le leur doit, c'est normal. Hein. Arrogance, méchanceté et orgueil. Ils sont persuadés que c'est un dû. Hein. On pourrait s'imaginer que les gens qui ont une position favorisée sont plus reconnaissants que les autres. Je suis un être humain comme tout le monde, je suis né nu comme tout le monde, j'ai que 2 bras, 2 mains, et puis maintenant j'ai tout ça, et je suis reconnaissant. Mais c'est pas le cas, hein, dans la plupart des situations. Donc, sortent-ils d'arrogance comme on porte un collier, la violence et leur parure. Alors, après, il y a des descriptions qui sont un peu imagées, mais intéressantes. Leurs yeux sont pétillants dans leur visage plein de graisse. Les mauvais désirs de leur cœur débordent sans mesure. Il faut savoir que dans la culture où ça a été écrit, hein, être gros et gras, c'était un signe de richesse. Parce que les gens arrivaient du mal à manger. Quelqu'un qui pouvait se permettre non seulement de manger, mais manger plus que ceux qu'il a besoin, c'était qu'il était riche. Hein. Je dirais c'était le signe extérieur de richesse de l'époque, donc ça a rien, c'est pas une critique pour les gens qui sont en surpoids aujourd'hui, mais c'est cette idée de d'accumuler, d'ailleurs le terme va arriver plus loin, hein, plus que ce dont j'ai besoin. Et je me souviens quand on vivait en Roumanie et puis au bout de quelques années après la révolution, donc il y a eu très très vite des gens qui sont devenus très très riches, pas honnêtement en général, hein. Et puis qui, pour montrer leur richesse, se faisaient construire littéralement des palais. C'était des maisons, il y avait 20, 30 chambres, il y avait 12 garages, il y avait, etc. Et puis j'étais avec un ami roumain qui était, lui, assez pauvre, vraiment pauvre. Et puis il disait, comment ils arrivent à dormir dans 2 chambres en même temps? Ça le faisait rire, tellement de bêtises, quoi. Parce que lui, il rêvait d'avoir, il n'avait pas sa maison à lui, hein, il rêvait d'avoir une chambre où il puisse dormir et puis une pièce pour manger. Mais il disait, mais 15 chambres! Il fait comment? Même s'il change tous les soirs, il dort pas dans 2 en même temps. Et cette idée d'amasser ce dont on n'a pas besoin, parce que la Bible est très très claire. Hein. Dieu nous reproche pas de désirer ce qui est nécessaire à notre vie. Notre Père sait que nous en avons besoin, mais il sait que nous en avons besoin. Donc le message est pas « soyez détachés, il vous faut vivre tout nu dans une grotte » et puis non. On a besoin d'un endroit pour s'abriter, de quoi manger, et selon la culture dans laquelle on vit, d'un minimum. Mais là, il est question de gens qui... Il y a un décalage énorme entre ceux qu'ils accumulent et puis les besoins. Et d'ailleurs, je saute un petit peu, mais si on arrive au verset 12, hein, « Voici comment sont les méchants, toujours tranquilles, ils accumulent les richesses. » Et... c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est assez... Ces gens ont plus que ce qu'ils pourraient dépenser dans 300 vies, et ils vont pas dormir parce qu'ils veulent en gagner plus. On se dit, mais ça a pas de sens. Hein. On peut presque comprendre les gens qui ont de la fortune et qui la dilapident, Je dis pas que c'est bien, mais on le comprend, ça a un sens. Ils en font quelque chose, même s'ils font pas de bien avec. Hein. Mais ces gens qui sont actifs 20 heures par jour, ils ont des milliards et des milliards, donc c'est des sommes qu'on peut plus visualiser. Des yachts, il y en a trois, des maisons, on compte plus, des problèmes. Et au bout d'un moment, ça a pas de sens. Et pourtant, ils tueraient pour avoir plus. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font, ils tuent pour avoir plus. Hein. Et donc, c'est l'accumulation. Parce que j'ai eu le privilège, c'est pas une parenthèse, c'est lié au sujet, mais de partager d'assez près la vie de gens qui sont devenus très très riches. C'est des missionnaires en Roumanie qui avaient été reniés par leur famille, qui vivaient avec rien pendant des années, puis vers 60 ans, ils ont fait un héritage, c'était des millions de dollars. Hein. Et j'ai eu le privilège de vivre à côté d'eux pendant 4-5 ans, ils ont rien changé à leur façon de vivre. C'était même gênant parce que des fois, les Romains venaient me voir en me disant « Je sais que c'est des missionnaires qui sont pauvres, je vois qu'ils ont toujours des habits un peu limites, un peu déchirés. Tu crois qu'on pourrait faire une offrande pour les aider ?» quoi. Parce que les gens ne savaient pas hein, qu'ils étaient devenus riches entre-temps. Quoi. Mais quand je parlais avec eux, ils me disaient « Écoute, avant on vivait comme ça, pourquoi on changerait notre façon de vivre maintenant qu'on a de l'argent ?» Et ils utilisaient leur argent pour aider les gens à droite à gauche, sans qu'on le sache. Hein. Mais eux, ils vivaient toujours pareil, même à un point où ça en était pénible. Quoi. Ils avaient un attel, on ne pouvait pas les joindre parce que la batterie était morte. Je disais, mais quand même, change ton attel au moins. Ils me disaient, avant, on l'aurait gardé un an, alors on le garde encore un an. Bon, on ne va pas changer notre façon de faire. C'est très rare, des gens comme ça. Hein. Donc, mais ça existe. Et ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la richesse qui est un problème. C'est l'accumulation, l'égoïsme qui va avec et toutes ces choses-là. Mais ce qui est intéressant, là je reviens de verser en arrière, donc on a cette description, hein, ils sont dans leur graisse, ils sont riches, ils sont moqueurs, ils parlent méchamment. Mais au verset 10, « Aussi le peuple les suit-il, buvant à l'entrée leurs paroles. » Et ça, c'est sur le coup, ça m'a interpellé, je dis « Mais comment ? Mais non, le peuple, il veut couper la tête de ces gens-là, il est en colère contre eux. » Puis je réfléchissais, mais non, hein. J'ai pas beaucoup regardé, mais j'ai vu quelques petits reportages pour les Jeux Olympiques. Et puis je tombais sur un reportage, il y a des gens qui faisaient des files d'attente, mais des heures, hein, parce que ils ont aménagé un port pour les yachts de luxe à Londres, pour que les gens les plus riches de la planète puissent venir en bateau voir les Jeux Olympiques. Donc là, il y avait des bateaux qui coûtaient des milliards et des milliards, hein, qui servent à rien, un luxe vraiment incroyable. Et puis les gens qui gagnent le SMIC, hein, venaient faire 2-3 heures de file d'attente hein, pour aller voir, observer ces bateaux, dans l'espoir de prendre la photo d'un de ces hommes riches qui passerait devant, derrière une fenêtre. Ah, je l'ai pris en photo, et ils rentreraient chez eux. Hein. On se dit, mais c'est incroyable. On pourrait s'imaginer que, oui, ils veulent aller sur le bateau pour prendre l'argent qu'il y a dessus, pour les piller, pour insulter ces gens. Non, on les admire. On aimerait être comme eux, mais au moins ça nous fait rêver. Hein. Peut-être un jour, si je gagne au loto, pour ça il faudrait y jouer, mais je serai comme ça. Et c'est incroyable de voir que, en fait, on est tous comme ça. Vous savez, je vais pas souvent à Paris, mais une des dernières fois où j'étais à Paris, on voulait visiter je sais plus où, puis on pouvait pas passer parce qu'il y avait des barrières hein, avec la police, hein, des milliers de gens qui hurlaient là. Et puis la police nous a dit, mais ils sont là depuis ce matin 6 heures. Parce qu'il y avait je sais plus quelle star de cinéma qui devait passer peut-être dans une voiture avec des vitres noires. Quoi. Et je me disais, on est dans un pays où on a coupé la tête de la reine parce qu'on ne voulait pas quelqu'un au-dessus de nous. Hein. Et quelques générations plus tard, les descendants de ces gens-là vont passer 10 heures dans une rue au soleil, il faisait beau ce jour-là, derrière une barrière pour voir passer une voiture avec des vitres noires. Parce que peut-être dedans, il y a quelqu'un qui joue dans un film. Mais on a un cerveau ou pas? C'est pas croyable. Hein. Certains disent, oui, mais moi j'ai pris ma journée de congé parce que je savais qu'il serait là. Mais ça, c'est l'être humain. Et on voit que c'était pareil à cette époque-là. Hein. Aussi, le peuple les suit-il, buvant leurs paroles. Vous avez remarqué comment dans les émissions de télévisées, on demande leur avis aux gens riches sur des sujets où ils connaissent rien. Mais comme ils sont riches et qu'ils ont réussi, forcément, leur avis, c'est le bon. Donc, vous avez des gens qui connaissent rien en économie, qui vont parler pendant un quart d'heure sur le sujet, ou qui connaissent rien à la musique et qui vont s'exprimer dessus. Pourquoi ? Ben, vu qu'ils ont réussi, ils ont raison. Et le peuple les suit. Hein. Et je me disais, c'est quand même incroyable, parce que nous, en tant que chrétiens, comment on vit par rapport à ça, et puis par rapport à nos enfants, comment on les éduque. Ben, on voudrait que eux arrivent là où nous n'y a pas été, mais vous, travaillez plus, l'important c'est gagner de l'argent, mettre de côté, être sérieux. Dans quel but? Le peuple les suit, et puis nous aussi. Hein. Et en même temps, au fond du cœur, il y a cette jalousie, cette amertume, oui, mais alors moi je suis honnête, moi je travaille, moi je me lève tôt, moi je donne mon maximum, moi je fais tout, et je vais mourir inconnu, pas reconnu, sans un sou de côté, sans même pouvoir. C'est pas juste, hein. Et si je suis honnête, ça me pose un problème, même avec Dieu, parce que Seigneur, ouais, bon, mon pain quotidien, je veux bien, mais et mon yacht quotidien, alors. Hein. Voici comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils accumulent les richesses. Hein. Et là, le Asaph fait le constat, verset 13, 14. Alors, c'est donc en vain que je suis resté pur, que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein, ces moments où on se dit, mais ça sert à quoi d'être honnête? Ça sert à quoi de suivre Dieu? Ça sert à quoi de... Franchement, j'ai gagné quoi à part des problèmes? Rien. Hein. Et là, on se dit, ben, je vais faire comme les autres. Et là, on a un souci quand même, c'est qu'on a une conscience. Et puis, si on est enfant de Dieu, il y a le Saint-Esprit en nous. Et on n'y arrive pas vraiment, quoi. Enfin, des fois un peu, mais... Hein, on est mal entre ces deux chaises, parce que on est jaloux, on veut pas, mais en même temps, on voudrait, et on sait pas, comment le faire. Et c'est très, très embêtant. Merci, Caroline. C'est gentil. Hein. Si je disais « parlons comme eux », alors je trahirais tes fils. Et là, il y a le verset 16. Il est magnifique, ce verset. « Je me suis mis à réfléchir. » Pas beau, ça ?« Je me suis mis à réfléchir. J'ai cherché à comprendre. » Waouh. Vous voyez, pour les gens qui disent que la foi, c'est obéir sans réfléchir ou pas comprendre, hein, ils n'ont pas lu la Bible. « Je me suis mis à réfléchir, j'ai cherché à comprendre, et je trouvais tout cela bien trop injuste. » On a, non seulement on a le droit, mais on a le devoir de faire ça. L'accusation selon laquelle la religion, c'est pour que les gens se taisent et restent tranquilles, elle est fausse si on considère ce que Dieu veut, mais elle est vraie dans l'observation de ce que souvent les soi-disant chrétiens ont fait. Hein. Non, ne réfléchissez pas, ne discutez pas. S'il y a des riches et des pauvres, c'est que Dieu l'a voulu, c'est comme ça, c'est bien, c'est l'ordre de Dieu, il faut respecter les autres. Non, c'est pas ce que dit la Bible du tout. Hein. Relisez l'épître de Jacques, entre autres. Hein. Mais je me suis mis à réfléchir, j'ai cherché à comprendre, je trouvais tout cela bien trop injuste. Et là, le verset 17, il y a le changement. Jusqu'au jour où je suis entré dans la maison de Dieu, où j'ai réfléchi au sort qui les attend. Ça, c'est le pivot de ce psaume. C'est que, d'abord, ce bonhomme-là, il est là, il regarde, il observe, il est comme nous, il voit, il y a cette injustice, il y a cette envie de tordre le cou, mais en même temps, en fait, j'aimerais bien être à leur place, ça me gênerait moins. Et puis, toutes ces contradictions qui sont en lui, qui s'agitent. Mais il y a une chose qui est magnifique, c'est qu'il est honnête. Au lieu de faire taire ces choses en lui, de faire l'autruche, dire « non, c'est pas bien », il met un nom dessus. Oui, il y a de la jalousie dans mon cœur. Oui, il y a de l'amertume. Oui, je suis en colère. Mais il s'arrête pas là. Et souvent, hein, on commet ces deux erreurs. Soit on fait l'autruche. Non, c'est pas chrétien, ils savent pas penser comme ça, puis je réfléchis pas. Soit on reste dans l'amertume et la jalousie et on va pas plus loin. Non, il nomme ces choses, il les assume d'une certaine façon. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il pense, il réfléchit, ça c'est essentiel. Mais il rajoute un élément, et il pense et il réfléchit dans la présence de Dieu. Hein. Jusqu'à ce que je rentre dans ta maison, donc c'était à l'époque de David et des psaumes, c'était. Mais pour nous ça veut dire quoi? Jusqu'au moment où j'ai pris du temps pour réfléchir et où j'ai inclus Dieu dans ma réflexion. Parce que la foi c'est ça, hein. C'est inclure Dieu dans notre vision des choses. Je sais pas pour vous, mais moi, régulièrement, je me surprends en train de penser à des choses, et puis, où je suis en colère, où ça va pas, où il y a ci, où il y a ça, où je suis trop mélancolique, et je suis pris dans ces pensées, ça tourne, des fois ça peut durer sur des jours, hein, jusqu'au moment où tout d'un coup, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant, mais je me mets à réfléchir, à m'inclure en Dieu dans mes pensées. Et tout d'un coup, ping, 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 ouf, c'est plus la même chose, hein. C'est un peu comme qu'un... ceux qui portent des lunettes, hein, vous regardez une page imprimée, mais sans les lunettes. Là, il y a des choses écrites, mais il y a des choses écrites. Mais bon, t'es là, les bras trop courts, et jusqu'à ce que je mette mes lunettes. Et ça devient clair. C'est plus des trucs que j'essaie de deviner, c'est des mots que je comprends. Jusqu'au jour où je suis entré dans la maison de Dieu, où j'ai réfléchi au sort qui les atteint. C'est pas ici, il n'est pas question ici de se, comment dire, de s'endormir avec des espérances futures éventuelles. Hein. Ouais, mais c'est pas grave, vous souffrez sur terre, mais au ciel ça ira mieux. Non, c'est de voir les choses comme elles sont réellement. Hein. Et pour ça, j'ai besoin des lunettes de la foi. J'ai besoin de voir avec la bonne perspective. Hein. Et c'est ce qu'il fait. Et tout d'un coup, il voit, et il voit la réalité derrière cette apparence. Car en fait, tu les mets sur un terrain glissant, tu les entraînes vers la ruine. Et soudain, c'est la catastrophe. En un instant, ils sont perdus. Ils sont détruits, et l'épouvante les saisit. Comme les images du rêve s'évanouissent après le réveil. Ô Éternel, quand tu interviendras, tu les feras tout disparaître. Ça peut se passer de différentes façons, hein. Mais comment ces gens-là affrontent la fin de leur vie? Je sais pas, j'ai pas assisté, mais ça doit être assez terrifiant. C'est-à-dire que malgré tout ce que j'ai, je vais mourir. Et puis, il y a probablement personne qui m'aime. J'ai rien fait d'utile de ma vie. Je sais pas où je vais. Tout d'un coup, ça s'arrête. Hein. Ou aussi. Et on le voit de nos jours, on peut facilement glisser de ces positions très hautes et se retrouver très bas. Je croyais être à l'abri, et c'est l'histoire avec Jésus, avec cet homme qui disait « J'ai mon grenier qui est rempli, j'ai beau. » Et puis, cette nuit, on se redemandait. Mais aussi, on peut rester en vie sur terre et puis tout d'un coup être ruiné du jour au lendemain parce que j'avais mis mon espérance dans les mauvais placements et puis j'ai plus rien. Toutes ces choses-là. Et là, il s'aperçoit que sa réflexion était fausse. Verset 21. Oui, quand j'avais le cœur amer et tant que je me tourmentais, j'étais un sot, un ignorant. Je me comportais avec toi comme une bête sans raison. C'est pas gentil pour les animaux, qui sont souvent beaucoup plus sages que les humains. Mais l'idée ici, c'est pas de dire que les animaux sont pas intelligents, mais c'est de dire qu'ils n'ont pas la capacité de raisonner comme nous, bien que des fois. Et j'étais comme ça. Je vivais sans voir réellement, et puis je me laissais emporter par ce que je voyais, puis je vivais là-dedans, et puis il y avait l'amertume et la jalousie, et je luttais contre ça. J'étais aveugle, je voyais pas. Mais je suis toujours avec toi, et tu m'as saisi la main droite. Et là, tout d'un coup, Dieu ouvre les yeux de cet homme pour lui montrer d'un côté la vanité, l'insécurité, la vacuité de tout ce que lui convoitait, hein, ses positions, ses richesses, cette reconnaissance, en lui montrant l'envers du décor. Hein. Je sais pas si vous avez déjà pu visiter un théâtre, ça m'est arrivé quelques fois. Vous êtes là émerveillé quand vous regardez la pièce, ça brille avec les éclairages devant, c'est impressionnant. Puis vous allez visiter par derrière, c'est décevant, c'est décevant. C'est pas réel, il y a rien, c'est de la toile, derrière ça brille pas, il y a de la poussière, c'est pas pareil, quoi. Je préfère de voir de l'autre côté. C'est exactement ce qui s'est passé pour Asaph. Dieu lui dit, attends, viens voir. On va faire le tour. On va voir par derrière. C'est quoi ça? Ça c'est rien, c'est un rat, attention, on peut marcher dessus. Et ça c'est quoi? Ça c'est de la poussière. Ça c'est la réalité. Voilà comment c'est. Et puis maintenant que tu as vu ça, regarde ce que toi tu as. Et là, il dit, ah, tu m'as saisi par la main droite. Et dans cette simple affirmation, et on pourrait juste développer ce verset-là et en parler pendant des heures, hein, il y a tout ce que nous avons, toutes les certitudes, toute l'absolu qu'il y a à être un enfant de Dieu. Hein. Tu m'as saisi par la main droite. Et c'est le psalmiste qui parle. C'est pas moi qui ai saisi la main de Dieu. Hein. C'est Dieu qui a saisi ma main. Et pendant tout ce temps-là où j'étais en train de râler, de convoiter, d'être jaloux, d'être amer, d'être tordu ou tout ce qu'on veut, j'avais pas réalisé que il tient toujours ma main. C'est la seule chose qui est sûre et certaine dans ce monde. Le cours de la bourse peut s'écrouler, les matières premières peuvent flamber, le ci, le ça, ma santé peut me lâcher, tout, c'est ce qu'il va dire après. Mais cette prise-là, elle est pour l'éternité. Il va pas me lâcher, jamais, jamais, jamais. Je suis avec vous tous les jours, à chaque instant, jusqu'à la fin du monde. Je vous lâcherai pas. Rien ne peut vous séparer de mon amour, car je suis persuadé que ni la vie, ni la mort, ni les persécutions, ni les autorités, ni les dominations, ni les choses d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre créature, ni rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Tu m'as saisi la main droite. En fait, en tant qu'enfant de Dieu, je suis la seule personne qui soit en sécurité. Enfin, je suis pas le seul enfant de Dieu sur terre, alors on est nombreux, c'est bien. Mais c'est... La seule vraie certitude, elle est là. Et puis la richesse. Comment on définit la richesse? Moi, j'aime dire, quand il me manque rien, c'est là que je suis riche. Est-ce que ces gens-là ont cette satisfaction? Jamais, justement. Ils sont dévorés, malgré leurs possessions, par cette envie d'avoir plus. Ils sont misérables. Ça paraît difficile à dire quand on voit ce qu'ils ont et qu'on le convoite. Mais lorsque, et j'espère que ça vous arrive régulièrement, hein, le soir à la fin d'une journée vécue avec Dieu, on se dit « Je suis pas grand-chose, je réussis pas grand-chose, mais si je meurs ce soir, je meurs satisfait. J'ai vécu cette journée avec Christ, c'est bien, c'est bon. » Là, je suis l'être humain le plus riche du monde. Pourquoi ? Il me manque rien. C'est ça un vrai riche. Il me manque rien. Je suis comblé. Je suis satisfait. Je suis plein. Hein. C'est l'image du bébé qui est propre et qui a mangé, vous savez. À 3 mois, hein, quand il a l'estomac plein, qu'il est dans les bras de sa mère et qu'il est propre. Qu'est-ce qui lui manque ? Allez lui parler d'un yacht, d'une place à la Star Academy. Il en a rien à faire. Il lui manque rien. Il a mangé, son estomac est rempli, il est propre, il est dans les bras de sa mère. C'est ça la richesse. Mais ça peut être notre situation. Jésus a dit, je suis le pain de vie, je suis l'eau de vie. Il y a à manger, il y a à boire. Je suis propre. Pourquoi ? Parce qu'il me purifie à chaque instant. Je pêche, mais je lui demande pardon, mais il me purifie. Et il me tient dans ses bras. Et je suis en sécurité. Je suis aimé. Je suis important pour lui, j'ai de la valeur, il me connaît, il me voit, il m'accompagne. Et tout d'un coup, le psalmiste se dit, mais quel idiot j'étais! J'ai tout ce que ces gens cherchent, qu'ils n'ont pas trouvé, et ils vont glisser loin de tout, et je l'avais pas vu. Hein. C'est le cri de Jacob qui se réveille, qui dit, certainement l'Éternel était dans ce lieu, et moi je le savais pas. Et combien de fois on vit comme ça, comme des animaux, à essayer de devenir comme des gens qui sont misérables, en pensant qu'on serait heureux si on était comme eux, alors qu'eux sont malheureux. Ça n'a pas trop de sens, mais on est comme ça. Jusqu'à ce que je m'arrête, et je réfléchisse, et je me pose des questions dans la présence de Dieu. Et là, mes yeux s'ouvrent, et tout d'un coup, c'est « Oh là là, tu m'as saisi par la main droite !» Puis ça ne s'arrête pas là, hein. Selon ton plan, tu me conduis, puis tu me prendras dans ta gloire. Il y a absolument tout. Cette sécurité, tu m'as saisi par la main droite. Selon ton plan, tu me conduis. C'est-à-dire, ma vie a un sens, une utilité. Elle est peut-être invisible pour certains, mais elle est utile. Je m'occupe de ses enfants, je fais ci, je fais ça, je vais là, je fais ma vaisselle. Il y a un plan pour ma vie, je suis en train de le vivre. Et puis les gens autour de moi, ils n'ont pas l'impression que j'ai quelque chose d'extraordinaire. Il va au travail, il revient, il fait ci, il fait ça, il s'habille, il prie. C'est une vie minable. Non, c'est la vie que Dieu m'a donnée de vivre, elle est extraordinaire. Et puis, il y a une direction, et puis je sais où je vais, ça ne s'arrête pas là. Et tu me recevras dans la gloire. Dans la gloire. Pas juste par la porte de derrière. Oui, ok, si c'est le ciel, pour les petits comme vous, écoutez, il y a une entrée de service derrière. Non. Tu me recevras dans la gloire. Et Jésus a insisté sur ce message. Relisez l'histoire que Jésus raconte avec cet homme pauvre et malade qui était devant la porte de l'homme riche. Et puis la fin de l'histoire, vous vous rappelez ? Le riche mourut et fut enterré. On ne sait même pas son nom. On l'a mis dans un trou, point à la ligne. Lazare mourut aussi, enfin, il mourra pas, mais, et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Il a un nom, il est connu, il est reconnu, il est accueilli. Il va être avec les grands, les vrais grands. Abraham, Moïse, David et tous les autres, dans la présence de Dieu. Bonjour, monsieur Lazare, bienvenue. Ah, oh, fou. Avec les trompettes, avec tout le monde qui joue, etc. Hein. Et le riche mourut et fut mis dans un trou. Super. Voilà. Allez, les verts. Hein. Et ça ça s'arrête là. Non, après, c'est même éternel. Donc, on doit penser à ces choses-là. Non, non, je parlais de l'équipe de Saint-Étienne, bien sûr. Mon corps peut s'épuiser. Ben oui. Tous les jours, un peu plus. Hein, un petit pas. Et mon cœur... J'ai pas mis mes lunettes, vous voyez, j'ai des soucis. Et mon cœur défaillir. Ben oui, ça va pas bien tous les jours. Dans mes émotions, dans ma vie. Mais Dieu reste mon rocher. Et mon bien précieux pour toujours. C'est-à-dire, peu importe si moi ça va pas, j'y crois plus, mais Dieu change pas, et le fait qu'il a pris ma main change pas, et le fait qu'il a un plan change pas, et le fait qu'il m'attend pour l'éternité ne change pas. Hein. Qui t'abandonne se perdra, et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. Oui, j'ai placé dans le Seigneur, dans l'Éternel, mon sur-refuge. Et la dernière phrase du psaume, elle est intéressante. Et je raconterai ses œuvres. Vous avez vu le chemin qu'a fait le bonhomme Asaph là, hein? Au début, ça commence, il est avec ses panneaux, il va faire des réclamations devant le bureau des réclamations de Dieu. Remboursé. Nous, on est fidèles, on te sert, on est honnête, on est juste, et on n'a rien. Eux, ils sont mauvais, méchants, agressifs, et ils pètent dans leur lard, quelle horreur, hein? Voilà, c'est pas juste. Ça commence comme ça, le psaume d'Asaph. Et au milieu, il s'arrête, il réfléchit, il pense, il se pose des questions dans la présence de Dieu. Dieu lui donne les bonnes lunettes. Waouh, il voit la réalité, il est bouleversé, la reconnaissance vient dans son cœur. Il s'aperçoit qu'il est riche, et ça se termine pas là. Qu'est-ce qu'il fait? Il jette son écriteau, il était venu pour faire une révolution, et puis il dit... Je raconterai tes œuvres. Pourquoi notre témoignage est peu percutant souvent, hein? Pourquoi on a du mal avec ce qu'on appelle l'évangélisation? Parce qu'en réalité, on est dans la première partie de ce psaume. Je vais voir des gens non-croyants, et puis je vais leur dire, vous savez, être avec Dieu, c'est le mieux sur terre. Mais au fond de mon cœur, je pense, mais bon, avoir un yacht, deux villas dans le Valais, machin, là, c'est bien aussi quand même, hein? Et puis on voudrait concilier les deux, puis on se sent coupable, puis on se sent un peu amer, parce que pour servir Dieu, j'ai perdu ça, et là, si j'aurais pu faire une meilleure carrière, si j'avais été moins honnête, mais pour être moins honnête, il ne fallait pas être chrétien, parce que je suis chrétien, On est tellement coincé là-dedans que quand on va parler de Dieu, on n'est pas très convaincant, hein, parce que j'ai de l'amertume dans mon cœur, de la jalousie pour les méchants, pour ceux qui réussissent, même si je dis que c'est injuste, mais ce qui est injuste, c'est que c'est pas moi. Mais lorsque Dieu m'amène dans sa présence et que je vois les choses comme elles sont, je suis libéré de tout ça, et là, je vais raconter ses œuvres. Là, maintenant, c'est plus, bon, il faut y aller, parce qu'il faut y aller, parce que Dieu a dit qu'il fallait y aller. Je le fais, vous savez, être chrétien, c'est vraiment la chose la plus enthousiasmante du monde, vraiment. Ça peut bouleverser votre vie, je vous assure, vraiment. Une grande joie, vraiment, abondance de joie dans sa présence. Hein? C'est un peu comme si moi j'allais vendre une lotion pour pas perdre ses cheveux, quoi. Vous voyez? J'aurais beaucoup de succès, je pense. Vous savez, c'est vraiment la meilleure lotion au monde pour pas perdre ses cheveux. Je vous garantis, achetez-la. Non. Hein? Mais lorsque Dieu m'amène dans sa présence et que je suis touché, alors là, je vais raconter ses œuvres. C'est extraordinaire. Alors, on peut pas le fabriquer. Et puis, le moment de louange était vraiment très, très... constructif pour nous, je trouve, et accompagner ce message, parce que ce qui nous a été présenté dès le début, c'est la seule chose dont j'ai besoin, c'est de donner mon cœur à Dieu et qu'il remplisse, c'est tout, hein. Chercher d'abord le royaume de Dieu, enfin on le connaît, quoi. Mais on a besoin, on continue avec tout ça, et c'est pour ça que j'aimerais qu'on reprenne un chant, si tu veux, un chant de louange, et puis juste qu'on laisse à Dieu le temps de toucher nos cœurs par rapport à ce psaume. Je vous encourage à le reprendre chez vous, à le relire, à le méditer. Et puis qu'on demande en priant pendant qu'on chante, on va chanter aussi, mais on va prier en même temps, que Dieu nous permette de réfléchir, de penser avec lui, de mettre les bonnes lunettes et de revoir nos vies, notre futur, notre avenir, notre passé aussi, dans cette perspective-là, de sortir de l'animal sot et sans raison pour devenir quelqu'un qui voit ce que Dieu a fait, comprendre ce que ça veut dire et aller plus loin avec lui. Je vais juste prier, puis on va continuer avec le chant. Seigneur, merci pour cet encouragement que tu nous donnes parce qu'a vécu cet homme il y a très longtemps. Merci parce que nos cœurs n'ont pas changé, c'est toujours pareil. Mais nous voulons que tu nous aides à réaliser que tu nous as saisis par la main droite, ce que ça veut dire. Que tu nous conduis, que tu nous accueilleras dans ta gloire. Donne-nous une vraie vision, une bonne perspective, les bonnes lunettes pour comprendre, réaliser tout ce que nous avons en toi, notre vraie richesse, notre liberté, et que nous puissions raconter tes œuvres avec joie, avec enthousiasme, bouleversés par la grandeur de ta personne, de ta vie, de ton amour pour nous, Seigneur. Et nous voulons te rendre grâce pour tout cela. Amen.